Deuxième partie, extrait de Chronique de l'hôpital. Décidément, tout de même, il noircit l'hôpital en dépit du beau mois de juin dont nous jouissons, toute verdure humide de pluie sentant bon et luisant de clarté vive. Oui, l'hôpital se fait noir malgré philosophie, insouciance et fierté. Nous nous plairions au grand soleil et sous les rameaux verts des chênes. Nous, les poètes, aussi bien que les ouvriers, nos compagnons de misère et de salle. Et vivent les purs luxes et les femmes pures ou non, et la vraie vie vivante pure et impure. En attendant, frères, artisans de l'une et de l'autre sorte, ouvriers sans ouvrage et poètes avec éditeurs, résignons-nous. Buvons notre peu sucré tisane ou ce coco, avalons bravement qui son médicament, qui son lavement, qui sa clinique. Suivons bien les prescriptions, obéissons aux injonctions, que douces nous semblent les injections et suaves, les déjections, et réprimons toutes les objections, sous peine d'expulsion, toujours dure, même en semant des fleurs et du foin. Des jours réchauffants et des nuits charles clémentes, pour peu que l'on loge le diable dans sa bourse et la dette et la faim à la maison. Évidemment, nous sortirons tôt ou tard, plus ou moins guéris, plus ou moins joyeux, plus ou moins sûrs de l'avenir, à moins que plus ou moins vivants. Alors nous penserons avec mélancolie, une mélancolie que j'ai déjà connue dans mes entr'actes, un tantinet rageuse, goguenarde, un petit peu reconnaissante, tour à tour et rancunière à nos souffrances morales et autres, aux médecins inhumains ou bons, aux infirmiers rosses ou pas, à telle ou telle surveillante qu'on maudissait quand on ne la mystifiait pas, pas nous, les autres, parce qu'elle était trop bonne, etc., etc. Et peut-être un jour regretterons-nous ce bon temps où vous, travailleurs, vous vous reposiez, où nous, les poètes, nous travaillions, où toi, l'artiste, tu gagnais ton bagnouls et t'étonnes avec des portraits de suppléantes et d'élèves et quelques fresques dans la salle de garde. Oui, peut-être un jour nous reviendrons, mélodieuses du passé, ces conversations de lit à lit, de bout à bout de salle parfois. Allons, messieurs, un peu de silence, donc. Nous ne sommes pas ici à la chambre. Taisez-vous, 27, espèce de cheval de retour. C'est toujours les abonnés qui font le plus de pétards. Ces discussions plus qu'animées, rien moins qu'attiques, ils nous reviendront, ces sommeils coupés de cris d'agonie, ces vociférations de quelques alcooliques, ces réveils avec de ces nouvelles. Le 15 a cassé sa pipe. « As-tu entendu ce cochon de quatre ? Quel nom de Dieu, ce sale ronfleur ! » Par-dessus tout nous reviendra, hélas, sous forme d'utile regret, ce calme sobre, cette stricte sécurité de ces lieux de douleur, certes, mais aussi de soins sûrs et de pain sur la planche. Peut-être un jour que la mort nous tâtera, que la maladie avant-courrière et fourrière nous tiendra fiévreux et douloureux, peut-être miséreux et solitaires. Les reverrons-nous, non sans attendrissement, et une sorte de triste, oh, bien triste, gratitude, ces longues avenues de lits bien blancs, ces longs rideaux blancs, car tout est long et blanc, en quelque sorte, en ces asiles. Tout sauf, en ce jour suprême de juin, pour moi, là de tant de pauvreté, provisoirement, croyez-le, car si habitué, moi, depuis 5 ans, l'hôpital avec un grand H, l'idée atroce, évocatrice d'une indicible infortune, de l'hôpital moderne pour le poète moderne, qui ne peut à 16 heures de découragement que le trouver noir comme la mort et comme la tombe et comme la croix tombale et comme l'absence de charité. Votre hôpital moderne, tout civilisé que vous l'avez fait, homme de ce siècle d'argent, de boue et de crachat. Deuxième chronique. Zut alors, ne sortirais-je donc de Charybde que pour m'engager dans Scylla? Et mon nom, que je voudrais purement et bonhommement poétique, va-t-il passer proverbe? Déjà quelqu'un, qui a cru bien faire, avait dit que si d'autres s'étaient servis de l'hôpital pour y mourir, moi je m'en servais, autant dire en profitais, pour y vivre, autant dire pour vivre. Pourtant, je vous donne ma parole d'honneur, que mon plus vif désir serait de mener l'existence de tant d'autres que je vaux, et je parle ici en toute modestie. Sans luxe, je n'ai aucun goût luxueux. Sans trop de grandes débauches, mon actuelle santé s'y oppose formellement, et mes principes, car j'ai des principes, ne feignez pas de l'ignorer, ô mes chers camarades. Il y aurait quelques objections, sans pose, ni excès de méchanceté, ni abus de bonté, un juste milieu entre le pire et le mieux. Pas de vertu, hélas, mais pas de vice proprement. Ni Alceste, ni pourtant Philinte. Enfin, une existence de brave garçon et d'honnête homme. Dû celui-ci tirer sur la gentilhomme, car fille du gentleman. Hoc erat in votis. Au lieu de cela, depuis, je compte bien 4 énormes années presque révolue, c'est l'inquiétude, que dis-je, le halètement, c'est la mort et l'envie de l'argent, bon courtisan au pied diligent, acharné après ce pauvre moi, toujours en quête du bon repos du surabri et qui fait des bonds de cabri sous les crocs de toute une race, comme pleurait un mien poème douloureux d'il y a quelques années. C'est après plus d'un an de presque insupportables souffrances physiques et morales, de trahisons dont je me tais aujourd'hui, et de luttes que je dirais, et avec de courts, mais encore trop longs, intervalles de déception, de déconvenue, d'inappétence et de dégoût, l'hôpital depuis 4 ans, je le répète, je compte bien, dans moins de 2 mois. Mon caractère, au fond, philosophe, ma constitution restée robuste, en dépit de cruelles et surtout des plus incommodes fins et commencements de maladies, rhumatisme, bronchite, l'estomac, le cœur maintenant, m'ont amené jusqu'ici solide encore de corps et de tête. D'autre part, je n'ai qu'à me louer des bons égards et des soins assidus dont j'ai jusqu'à présent été l'objet reconnaissant. D'excellents amis ont fait pour moi ce qu'ils ont pu. Si d'autres amis m'ont déçu, comme à plaisir, et trompé de la meilleure foi du monde, j'admets tout cela, et que j'ai eu dans mon malheur ce que l'on appelle de la chance. Mais toujours est-il qu'il est dur, après une vie en somme de travail, agrémentée, je le concède, d'accidents où j'ai pris ma large part, et de catastrophes peut-être vaguement préméditées. Il est dur, dis-je, à 47 ans d'âge, en pleine possession de la bonne réputation, du succès, pour parler la faux langage courant, à quoi pouvaient aspirer mes plus hautes ambitions, dur, dur, très dur, et plus que dur, de me trouver, mon Dieu, oui, sur le pavé, et de n'avoir, pour reposer ma tête et nourrir un corps qui vieillit, que les oreillers et les menus d'une assistance publique encore aléatoire, et qui peut se lasser, Dieu d'ailleurs la bénisse, sans qu'il y ait visiblement de la faute de qui que ce soit, oh non, pas même, et surtout pas de la mienne. Qu'on m'objecte la triste mort de Gilbert, mort dont la clé est encore à trouver, celle du pauvre Égésippe, l'épouvantable fin d'Edgar Poe, les lamentables derniers jours de notre grand Villiers, pour me bien persuader que je suis un bidard d'ainsi traîner mon âge mûr salué, et j'ose dire aimé par toute la jeunesse lettrée, dans la fade odeur de l'iodoforme et du phénol, les promiscuités intellectuelles contre nature, l'indulgence un peu narquoise des docteurs et des élèves, toute l'horreur enfin d'une littérature misère, mal à l'abri des dernières extrémités. Vous aurez beau dire, beau faire, C'est, pour emprunter sa phrase à l'illustre Margue, de qui l'on inaugurait dernièrement la statue, en grande pompe officielle et parlementaire, c'est embêtant. Chronique 4. Le lit que j'occupe cette fois à l'hôpital Labrousse et qui porte le numéro 27 bis de la salle Seigle a cette particularité que, de mémoire de malade, aucun de tous ceux qui y ont dormi, sauf deux ou trois originaux, de qui je grossirai peut-être le nombre, n'y est pas mort. Ce, avec une touchante régularité d'exemples donnés et suivis. Un tel funèbre privilège n'est pas sans entourer cette couche trop bien hospitalière d'une considération vaguement respectueuse à laquelle une superstition sui generis ne reste pas tout à fait étrangère. En un mot, commençant, il n'y a pas amateur. Moi, je n'avais pas le choix. S'agissait de prendre ou de laisser. Dans un sens, laisser m'eût presque tenté, tandis que prendre, c'était le plus mauvais gîte évité, et je pris. Je pris, non toutefois sans avoir plus vu que cela mon prédécesseur que je ne connaissais pas davantage, comme on dit. Il était là, mon prédécesseur, quand j'entrai dans la salle. Ni beau, ni laid, ni à vrai dire rien. Une forme étroite et longue, entortillée dans un drap avec un nœud sous le cou et pas de croix sur la poitrine, à même le matelas, sur le lit de fer sans rideau, ainsi que sont maintenant les trois quarts des lits d'hôpital. Encore une légende qui s'en va, diraient mes éminents confrères et mes maîtres dans la chronique. Une civière dite boîte à dominos, recouverte d'un tant de lait de teinte quelconque, nuance plutôt toile à matelas, fut apportée. On y mit le paquet et en route pour l'amphithéâtre. Quelques instants après, j'étais installé dans le poussier, tout à l'heure mortuaire, et véritablement justiciable du mot d'argot que je viens d'employer, si l'on veut bien se reporter au « pulvises et in pulverem reverteris » de l'Église catholique. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. D'ailleurs, c'est extraordinaire, vraiment, comme ici, on se familiarise avec cette chose au premier abord familière et terrible, et pourtant si banalement consolante et libératrice, la mort. Hein, dans la vie ordinaire, je ne parle pas des morts, chéris, parents ou amis, je parle des quelconques, des étrangers. Hein, quelle affaire! On a presque peur. Le pauvre inoffensif cadavre épouvante ou comme. Quand je grimpais mes nombreux étages, si je savais qu'à tel palier, derrière telle porte, au fond de tel appartement, il y avait un mort, comme disent les petites filles, de leur toute jolie bouche toute ronde, je frissonnais malgré moi et montais très vite. Heureux temps relatif. Depuis, même avant mes actuelles mistoufles, la triste et si bête expérience m'a gardé contre ces sortes de délicieuses, au fond, émotions. Mais nom de mille noms de noms, j'ai fait des progrès dans le scepticisme, et sans poser aux vampires et aux burkholaks le moins du monde, laissez-moi me targuer d'un gentil petit acte de comme sacrilège en dehors, si je puis parler de la sorte, en vue de bien élucider ma pensée. Songez donc, j'enfonce le chausseur de souliers d'un faux mort de la fontaine, je dégote son vendeur de peau d'ours, et j'aplatis cet excellent curé Jean Chouard. Je me chausse même pas les souliers d'un mort, pour de vrai, fille donc. Non mais, et que ce soit, comme je l'avoue plus haut d'ailleurs, en toute franchise, un peu à mon corps défendant, ou par une impudeur ou une impudence très préméditée, ce qui est, au fond, moins vraisemblable, je couche dans son lit à mon mort. Je couche, entendez-vous bien, dans son lit encore tout froid. Hop, 1830, ma chronique d'aujourd'hui. Mais que diable voulez-vous? Par ce temps d'effréné train de siècle, n'est-il point parfois précieux de faire machine en arrière? Chronique 5. Aussi, c'est la faute à la compagnie PLM, préparer les menottes, qui fait traverser à ses trains d'omnibus toute la Bourgogne et les arrête à toutes les stations. Des stations comme Vougeot, comme Beaune, comme Mâcon, comme tant d'autres, comme toutes, parbleu. Et à Mâcon, il y a 2 heures d'arrêt, après je ne sais combien de siècles en wagon, coupés à peine par des évasions, comportant tout juste le temps moral d'un verre ou de 2 verres, comme me dit à peu près Copé, quelque part. Depuis ce malheureux Paris qui semble s'éloigner à regret, si l'on s'en éloigne, soit, du moins momentanément, avec quelques joies naïves et pétulantes d'écolière en vacances. Donc, un poète, oh, il en est encore, et celui-ci est tout ce qu'il y a de récent, de mieux à la dernière mode, en un mot, ce qu'on fait de plus réussi dans ces articles-là. Pauvre comme Job, assez fier, bonhomme et violent, et malgré les apparences et les on-dit, pas ce qu'on appelle un bohème, ni de près ni de loin. Son horreur des brasseries littéraires n'a d'égal que son peu de répugnance pour l'hôpital quand il est malade, ce qui lui arrive quantes fois, depuis que 40 et des années le contemplent. Et c'est même d'un de ces Parnasses contemporains qu'il fut, ces jours-ci, dirigé pour des rhumatismes sur ce miraculeux Aix-les-Bains par la faculté jalouse de conserver à cette fin de siècle une plume aussi conséquente. Notre homme ne manqua pas, quelque soif ardent, c'est drôle comme on a toujours soif, surtout quand on n'est pas altéré, de descendre examiner en bon touriste, sinon en malade, trop prudent dans les vins offerts sur la route, buffets et buvettes, par de relativement consciencieux limonadiers. Si bien qu'à Mâcon, tout le monde descend. Il avait chaud et courut à la Saône, dont le cours rapide ne le tenta pas vers un bain, mais sur les bords de laquelle il s'empressa de saluer, comme c'était son devoir, la statue de Lamartine en coup de vent, avec des bottes superbes, et quel beau manteau! Des réflexions sur la mise confortable des poètes, in illo tempore, l'occupèrent quelques instants, mais il pleuvait. Avec la Saône, que d'eau, que d'eau. Entrer dans un café voisin était dicté. Il y but, en guise d'apéritif, fi de l'helvétique Pernod et du bitter d'Outre-Rhin, une franche bouteille de ce précieux vin français que le noble poète avait tant aimé, et dito un peu vendu, non sans profit, et malheur, le revoilà plongé après ses libations à des mânes illustres dans telles et telles rêveries relatives au temps béni où les poètes se trouvaient être de grands propriétaires. Toutes ces cogitations, en dépit d'un dîner passable dûment arrosé, ne furent pas sans assombrir un peu le songeur. Son visage, d'ordinaire ouvert et plutôt gai, se fronça par degrés, finissant par entrer en complète harmonie avec le costume qu'il portait, quelque chose de gris de souris, avec par endroits des détails mal élégants, un bouton sauté, quelques effilochages aux boutonnières, des rires jaunes vers les coutures. Son chapeau mou semblait lui-même se conformer à sa triste pensée, inclinant ses bords vagues tout autour de sa tête, espèce d'auréole noire à ce front soucieux. Son chapeau, pourtant joyeux à ses heures, lui aussi, et capricieux comme une femme très brune, tantôt tout rond, naïf, celui d'un enfant de l'Auvergne ou de la Savoie, tantôt en cône fendu à la tyrolienne, et penché, crâne sur l'oreille, une autre fois facétieusement terrible, on croirait voir la coiffure de quelque bandito, sans dessus-dessous, une aile en bas, une aile en haut, le devant en visière, le derrière en couvre-nuque. Puis, correct et plat, avec un joli petit creux tout autour de la calotte, son fatidique chapeau qu'il avait gaiement surnommé le chapeau d'Infortunatus, son coquin de chapeau, que décorait naguère encore d'un ruban moiré, moins pourtant que ses sombres cheveux, la toute belle Rita, fleur du Brésil, épanouie au cœur des bons poètes. Et ce fut ténébreux comme la nuit pluvieuse qui s'était abattue, qu'il arriva dans Aix, où il dut chercher un hôtel, au sortir du poussiéreux véhicule de la calamiteuse compagnie PLM, pour suivre le malfaiteur. Le trouva-t-il, cet hôtel, et à travers quelle probablement innocente aventure? S'en souvient-il, et qui le sait? Toujours est-il que le lendemain, aux environs de midi, ne le voilà-t-il pas qui s'adresse à une respectable landlady, lui demandant une chambre? Il n'y en a pas, monsieur. Ah? Et le poète, sans plus s'inquiéter d'elle qu'elle ne s'occupait de lui, de monter pour s'assurer du fait ou pour toute autre cause. S'en souvient-il et qui le sait? Comme peu après, il redescendait par un escalier très bien, ma foi, et s'apprêtait de sa jambe malade à quitter ce seuil inhospitalier, la dame de la maison, tout étonnée de le revoir, arrêtée. Pourquoi? Perché? What for? Car le poète est polyglotte. D'où descendez-vous? J'en sais rien, là-haut. Monsieur, assez, je vais faire venir le commissaire de police. Faisez? Car le poète parle mal français quand il veut et quand il peut, poussé par les circonstances comme dans l'espèce. Et puis peut-être un peu de blague aussi. Et s'asseyant sur une banquette qui se trouvait dans l'antichambre, « Vous permettez ?» L'hôtesse ne répondit pas, mais elle détaillait la toilette de l'intrus. Ce qui paraissait ne pas la choquer le moins fut plutôt l'allure, le port, que le matériel, que l'intrinsèque, pour ainsi dire parler, de cette toilette toute nouvelle à ses yeux, gâtée par le pchut, le vlan et le coiffure chic des villes d'eau. Le chapeau eut certes son suffrage, les irrégularités des vêtements aussi, mais ce qui l'étonna le plus, ce fut, je le crains, certains foulards de cachemire, nuances de vitrail XIIIe siècle, noués autour du cou avec des involtures, mais sans la bonne grâce admise. Car le poète est un dandy. Le commissaire de police arriva enfin. Commencement d'interrogatoire d'usage. Mais le poète, « Madame est sans doute habituée à des hôtes illustres. Je ne suis pas la reine d'Angleterre, ni le roi de Grèce, ni même le général Boulanger. Pourtant, vous admettrez, monsieur le commissaire, que j'ai droit, moi qui ne suis pas non plus le fils de l'homme, à reposer ma tête quelque part sur cette terre, qui n'est pas encore le royaume des cieux. » Le commissaire. « Avez-vous des papiers ? Voici. » « Très bien. Mais madame vous soupçonne d'être montée, malgré qu'elle vous eût dit qu'il n'y avait pas de chambre disponible pour... emporter le mobilier ? Ben, quelque chose comme cela. Et défaisant sa jaquette prestement, non sans toutefois quelque satisfaction intime et toute esthétique d'avoir pu un instant passer pour un émule, en un point important, du grand François Villon, le poète poursuivit. « Voyez, monsieur, vidé, Thomas, vidé mes poches. »« Sufficit, » dit le commissaire de police, homme d'esprit. « Vous êtes recommandé à monsieur le docteur, allons chez lui. » Et il est là, une voiture découverte. Un landau, ni plus ni moins, que pour un haut fonctionnaire de la RF, ou quelque autre royal, ou bien encore tel prétendant. L'hôtesse au poète. « Oh, monsieur, excusez-moi, mon Dieu, je vous prenais pour un voleur. »« Ah, mais c'est tout pardonné, madame. » Mais au fond, comme il était flatté, à cause de Villon, d'être pris pour un mauvais garçon. Il avait bien sur sa mine peu lamartinienne, été pris jadis et naguère pour ceci et pour cela, entre autres fois pour un assassin. Seulement l'interrogatoire ayant démontré que le coupable venait d'être guillotiné, l'affaire n'eut donc pas de suite. Mais se voir considéré comme un voleur, ça, c'était du nanan. Et voilà un homme, le cœur à l'aise et dégrisé, car était-il gris? S'en souvient-il et qui le sait? Cependant, le Langot stoppait devant le perron de l'hôtel. Le commissaire, veuillez monter. Et c'est ce bon docteur qui va être surpris d'une telle arrivée officielle dans nos murs. L'hôtesse, avec 1 000 sourires. Oh, pardon encore, monsieur, mais vous êtes si drôlement mis. Et le poète, chatouillé cette fois dans son dandysme, fit à la brave dame un geste d'adieu de la main gracieusement agitée qu'eussent envié Charles X et Lamartine eux-mêmes. Docteur, dit-il quand la voiture les eut amenés chez l'homme de l'art, c'est moi, un tel, de la part du docteur X. Et permettez-moi de me présenter. Car le cas est glorieux, s'il en fut, glorieux et rare. Sous l'égide de la loi, monsieur. Excusez les fautes de l'auteur. Chronique 7. Dire que c'est, depuis novembre 86, le troisième 14 juillet que je vais passer à l'hôpital. Sans être d'une orthodoxie républicaine partout irréprochable, j'avoue que j'adore assez, comme dit Banville, cette fête et ses rites. Bals amusants, assez décents, puisqu'en pleine place publique, comme au village, surtout à l'aube et à l'aurore, au son des orgues de Barbarie remplaçant les orchestres éreintés et couchés, revue de gamins, toujours gentille, apéritif drôlet de la grande revue déjà traditionnelle et légendaire de Longchamp, que je constate avec joie. Suivi de plus en plus par une population au fond militaire et plus patriotique qu'on ne le croit à l'étranger et chez nous autres pétrousquins. Et puis, l'anniversaire célébré, un peu absurde tout de même, n'est pas pour me déplaire complètement. Ce jour-là, le peuple commit sa première gaffe en détruisant une prison pour nobles, mais aussi son premier acte de foi rendu plus sacré. Plus cordial encore par l'esprit naïf de désintéressement sans père qui y présida. On objectera bien l'héroïsme relatif de ces vainqueurs, de quelques invalots et de leur magnanimité contestable après la capitulation. N'importe, le plus grand privilège royal, le seul vraiment odieux peut-être, était renversé, la lettre de cachet jetée au panier. Par le seul fait de la défaite de cette forteresse du bon plaisir moyenâgeux, ou bien plutôt Renaissance, car rappelons-nous, entre autres souvenirs du lycée, que c'est François Ier qui mit la royauté hors de page, la Révolution enfin inaugurée, bien moins grâce à un épisode brutal, banal au fond, qu'à l'aide du symbolisme, oui, c'est vraiment le mot, du symbolisme inconscient. D'une foule sublimifiée par les conjonctures. Mais notre peuple actuel, bien moins symboliste que décadent, pour emprunter à nos querelles de mots, pendant qu'il en est peut-être temps encore, son vocabulaire très éphémère, je le crains, oh, se moque bien entendu de ses considérations, et ce qu'il a raison. Et gamin, en avant l'artillerie! Où est le temps quand, vers la colonne de juillet, dans cette cour Saint-François, tous ou presque tous les gosses de la rue, riches de mes soins prodigués, incendiaient le trottoir et la chaussée de pétards et de fusées, et le ciel de chandelles romaines, et les murs de soleil, suscitaient entre les pavés et de dessus les rebords de fenêtres, des rez-de-chaussée et d'un peu partout, de facétieux étrons de Suisse, en mêlant de suraigus « Vive Monsieur Paul oh, vive la République de rigueur !» Et gamin, en avant les rondes et les ballons et les fromages ailée une poule sur un mur, sur le pont du Gard un balier donné, c'est les chevaliers du guet. Et tout le monde en avant d'eux. Les bons sergents de ville fument leur bouffarde sous le nez indulgent, ce jour-là des sous-brigadiers, savourant eux-mêmes crapules et deux sous la noce. Les bons ivrognes festonnent et chantonnent, en dépit des vaches non enragées par cette annuelle exception. Un air sincère de fraternité, un tant il est gouailleuse, très goualeuse, par exemple, flotte, on dirait dans les plis des drapeaux, et semble descendre d'eux dans l'âme des passants. C'est superbe et presque touchant. Et la RF, bénéficiant ce jour-là de la bride laissée sur le cou de braves populos, se redresse, se rebiffe, comme on dit au régiment, se sent jeune de ses 20 ans, de sénile que la faisait hier cette même puberté, et peut se croire aussi populaire pour un peu que feu Badingue au temps jadis, et que ce Boulange assez salement lâché d'ailleurs au temps naguère. Mais à nous autres, les embastillés de la mistoufle et du bobo, cette RF toute fière, toute joyeuse, pensa-t-elle au moins un peu à nous, ces pauvres? Mon Dieu, oui, sous les espèces d'une double ration de vin. Total, une chopine pour les malades bien portants, et d'un cadeau de 2 ou 3 sous, éclair, baba, tartelette. Puis le soir, retraite, pas flambeau, un 9 au lieu de 8, et permission de chanter, s'il vous plaît. Et alors, ce sont des Noëls, hélas, d'Adam, des rabots, de forêt, oh là! Car le Parisien, le faubourien, n'est pas si sceptique qu'il ne gobe jusqu'au vrai exclusivement les airs d'église et des petits pinsons, des Carmen, vous n'avez pas d'âme. Car aussi le faubourien, le rôdeur, donne dans l'élégie et coupe peu dans la politique, bonne pour quelques vieilles barbes de 71, ou dans la blague qui semblerait dévolue aux couches un peu plus aisées, sinon beaucoup plus intellectuel du bourgeois en herbe, l'étudiant et l'artiste en fleurs, potache et rapin, ou saute-ruisseau, ou bohémaillon. L'enthousiasme, et c'est tout naturel, est assez restreint, il faut aussi bien l'avouer. Pourtant, il éclate dans certaines zones, en guirlandes tricolores de papier ingénieusement comme tressées, en écussons bleu, blanc, rouge, avec en jaune d'or les initiales obligées, le tout fruit d'une souscription depuis 1 sou. Ce, au nord de Paris, je ne parle que de ce que j'ai vu du nord, sérieusement démocratique, Belleville, Ménilmontant. Au sud, Faubourg Saint-Jacques, Montrouge, calme plat, rien. Mais dans un de mes hôpitaux vers ces régions, les malades, si froids en apparence, je l'espère, car les sentiments profonds sont jaloux et discrets à l'égard de notre forme actuelle de gouvernement, s'épanchent en manifestations reconnaissantes et respectueuses envers leur chef de service, l'illustre et vénéré docteur, à l'époque de sa fête, qui tombe à la Sainte G, si ma mémoire est bonne. Festons, astragale, bouquet, compliments. Et le prince de la science ne reste pas en affront et régale princièrement ses humbles clients d'un beau concert de tasses, prudemment mais gentiment aromatisées, de thé, de café, de gâteaux et sucreries, qui mettent pour quelque temps de la joie et de la gaieté dans ses pauvres cœurs, tout gratitude pour les bons soins et la délicate attention. Et je préfère, quel que soit mon chauvinisme révolutionnaire bien connu, cette fête de la vraie fraternité à la tienne d'hier, liberté, liberté chérie. Chronique 8. Car c'est la dernière de cette série, peut-être la définitivement dernière, et je croyais même bien qu'elle n'existerait pas, cette chronique-ci, que force pourtant m'est d'écrire en vue de remplir tout un petit programme d'impression nullement socialiste, comme c'est de mode, ni surtout anarchiste, un mot bête mal emprunté au grand Proudhon d'antan par des jeunes gens aimables mais insuffisants. Donc, en décembre dernier, je fus pris subitement d'une douleur rhumatismale atroce, mais déjà ressentie jadis au genou gauche. Cette fois, c'était au poignet de la même latitude. Cela se passait dans le faubourg Saint, où se trouve un vaste hôpital dont je connaissais depuis longtemps l'excellent directeur, qui me fit admettre d'urgence dans le service du docteur T. Celui-ci fut littéralement si gentil, son interne aidant pour moi, que j'éprouvais un littéral chagrin à me séparer de ces messieurs. J'habitais une petite salle vitrée donnant en T sur une grande, si bien que, par la disposition directe de nos lits, nous étions cinq, dont moi cinquième, vers un coin, je fus induit à nous comparer à des figurants de la morgue, mais le bon docteur, au courant de mon nom, l'avait surnommé la salle des décadents. Que je fusse parfaitement heureux dans ce, j'espère encore, dernier hôpital, non. Seulement, j'y vécus, à moi tranquille, tout aux soins charmants et délicats d'un parfait corps médical et du personnel subalterne le plus dévoué possible. Même les camarades étaient plaisants pour la plupart et cordiaux. L'un d'entre eux, particulièrement un soldat, quel terrible homme, tout moustache, sorti à peine des bataillons d'Afrique. Il ne croyait, le bon bougre, ni à Dieu ni à diable, parisien en outre, et comme je lui objectais de temps en temps qu'il devait y avoir là-haut quelqu'un de plus malin que nous, et qu'il avait tort de ne pas croire en lui et de ne pas s'y fier, mon biribiste m'avait baptisé Ratichon, ce qui veut dire curé en argot. Il ne m'appelait jamais autrement et ce sobriquet délectait beaucoup ceux de nos voisins qui avaient la force de s'abuser. Or ça, mes hôpitaux de ces dernières années, adieu, sinon au revoir. Alors salut en tout cas. J'ai vécu calme et laborieux chez vous. Je ne vous ai quitté l'un après l'autre que pour en quelque sorte vous regretter. Et si ma dignité est d'homme relativement moins, pas beaucoup moins misérable que les plus tristement dénués de vos habitués, et mon juste instinct de bon citoyen, ne voulant pas usurper des lits, hélas, tant enviés par tant de pauvres gens, me précipitèrent souvent et souvent prématurée fois hors de vos portes si bénies à l'arrivée, mais pas plus qu'à la sortie. Soyez assurés, bons hôpitaux, qu'en dépit de toute monotonie nécessaire, de tout régime forcément sévère et de tous inconvénients inhérents, en définitive, à toute situation humaine, je vous garde un souvenir unique parmi tant d'autres remembrances, infiniment plus maussade que la vie extérieure m'a fait, me fait encore et me fera, subir, sans nul doute, encore et toujours.